It is my great pleasure to introduce our first keynote speaker, a very...
Dr. Gottlieb. Et professeure à l'école de médecine. Elle est à l'hôpital général juif. Elle était directrice de l'école de soins infirmiers de McGill. Pendant toute sa carrière, elle a reçu un grand nombre de prix prestigieux. Le prix du centenaire de l'AIC. Premier et unique prix décerné pour mettre en honneur 100 infirmières et infirmiers exceptionnels du Canada. Elle a écrit un grand nombre de livres et le thème de son livre le plus récent est le thème de notre conférence. Elle va nous parler des soins infirmiers basés sur les forces, se fonder sur le passé, bâtir pour l'avenir. Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à une femme de passion, une femme de vision, le docteur Laurie Gottlieb.
More woman of passion than anything. Okay, bienvenue. Welcome to this inaugural.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à cette conférence inaugurale sur...
de voir tout ce monde réuni ici qui veulent en savoir plus sur les soins infirmiers fondés sur les forces. La raison pour laquelle cette approche est si appréciée parmi nous, c'est qu'elle incarne le sens même de ce que font des infirmières et ce que la profession offre. Strengths-based nursing is resonating, and it's resonating with so many.
Les soins infirmiers, c'est une approche qui s'identifie à tellement d'entre nous, car ça englobe le meilleur de ce que nous faisons et ce que nous pouvons offrir. Je voudrais remercier, pour commencer, mes amis, mes collègues, le Dr. Joe Schumann, qui ont été les premiers champions de cette approche. Lorsque je leur demandais de participer à mon livre, leur enthousiasme a pris par surprise. Ils ont apporté un appui considérable et pour moi, c'était précieux. Lorsque je leur ai demandé de se joindre à moi pour cette conférence inaugurale, j'étais ravie. Ce sont des infirmières exceptionnelles qui sont jointes à moi dans cette époque. J'aimerais passer la prochaine heure en remerciant toutes les personnes qui m'ont joint dans mon parcours. Mais ça prendrait trop de temps. Donc, je ne rementionnerai pas tout le monde, mais sachez que vous avez tous joué un rôle très important dans ce parcours et vous avez été une partie très importante de ma vie professionnelle, personnelle. La seule personne que je voudrais mentionner, la personne qui m'a vraiment accompagnée, même avant ma naissance, ma sœur jumelle. On ne peut pas être plus proche que des sœurs jumelles. Alors, Dr. Linda Gottlieb, merci. Oh non, docteur, on est né donc avec ce nom. Et je voudrais la remercier, elle est venue de Toronto. Au cours de la prochaine heure, nous allons voir comment les soins infirmiers basés sur les forces doivent être fondés sur le passé. Nous allons voir pourquoi le moment est venu d'avoir cette approche, pourquoi nous avons besoin de cette approche. Et je vais parler des essences très essentielles qui définissent ce genre de pratique. Bon, certaines de ces idées vont vous paraître familières. C'est parce qu'elles sont des idées connues. Vous êtes certainement nombreux et nombreuses à déjà pratiquer les soins infirmiers basés sur les forces, ou en tout cas certains éléments. Vous ne l'avez peut-être pas pensé sous cet angle, mais maintenant vous allez pouvoir reconnaître que ce que vous faites correspond en fait à ce mouvement. Bon, il y a d'autres éléments qui vous paraîtront peut-être moins familiers et j'espère que cet après-midi, d'ici la fin de la conférence, vous allez vous sentir plein d'inspiration, de motivation, d'énergie et vous voudriez donc ensuite reprendre ces idées pour pouvoir les utiliser dans votre pratique, que ce soit auprès des patients, que ce soit dans l'éducation, dans la recherche. Alors, est-ce qu'on vient de voir d'abord quel est le contrat social? Nous oublions souvent ce que nous faisons. Chaque profession a un contrat social. C'est le contrat conclu avec la société. Ce contrat social mentionne les obligations et les responsabilités du professionnel ou de cette professionnelle face à la société. En échange, la société accorde à notre profession certaines reconnaissances et un certain statut social. Donc, il faut nous demander, c'est quoi le contrat social en soins infirmiers? Le contrat social a été formulé par Florence Nightingale, fondatrice des soins infirmiers laïques, séculiers, modernes. Le service des infirmiers infirmières rendus à la société correspondent dans les soins des personnes en santé et des personnes malades, donc promouvoir la santé. Créer des conditions qui permettront à la personne de se guérir et il s'agit également donc de soulager la douleur. Alors la question suivante qu'il faut se poser et de savoir comment en fait les professionnels remplissent leur contrat social. La réponse peut être multiple, mais je vais vous donner la réponse qui, d'après moi, me paraît la réponse la plus forte, la plus solide. La façon dont un professionnel assume son contrat dépend de ce que cette personne voit comme soins infirmiers. Qu'est-ce qui lui paraît très important? Et c'est ça qui servira de cadre. Alors, qu'est-ce qu'est la profession infirmière? Comment, en fait, accomplir sa tâche? Voilà ce qui va déterminer la façon dont le travail sera fait dans le cadre de ce contrat. Ce cadre permettra ensuite de déterminer quelles sont les connaissances qu'il faut aller chercher, quelles sont les compétences qu'il faut acquérir, quel type d'attitude faut-il avoir et quel type d'habileté faut-il posséder. Et je voudrais maintenant passer un petit peu de temps à parler de certains des éléments sous-jacents à ces soins infirmiers basés sur les forces, avec les fondements du passé. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à McGill et donc je ne pense pas que j'aurais pu écrire ce livre sans cette expérience. Alors je vais vous parler un petit peu de l'évolution, en quelques mots, de cette approche. Il y a cette citation que vous connaissez toutes, Isaac Newton, le physicien et mathématicien bien connu anglais du XVIIe siècle, a écrit: Si j'ai pu voir plus loin que les autres, c'est parce que j'étais debout sur l'épaule de géants. Et de mon côté, effectivement, j'ai pu me tenir debout sur l'épaule d'un grand nombre de géants dont je voudrais vous présenter quelques-uns. L'école infirmière de soins infirmiers de McGill est la deuxième plus ancienne à être créée. Il y a près d'un siècle, ça commence avec la dame qui est à droite, Flora, Madeleine Schaub, qui a donc lancé ce programme. L'autre géante, c'était Ray Chidick, qui pensait que les infirmiers et infirmières avaient pour rôle de comprendre la condition humaine, car c'est la condition humaine qui était donc ce sur quoi ils travaillaient. Et cette connaissance était emprunté à toutes sortes de sujets, la littérature, la philosophie, la psychologie clinique, la sociologie et les sciences biologiques. Et puis, Elizabeth Logan, une très jolie dame, directrice Lorsque moi j'ai commencé dans les années 60, et pour elle, les patients c'était vraiment les meilleurs enseignants. Et c'est en observant ce que vivaient les patients que l'on pouvait apprendre. Il fallait être très présent dans la vie de ces patients pour apprendre. Et quelqu'un dont vous vous souvenez peut-être, qui était la première personne à lancer le programme conjoint, qui a mis fin à l'isolement entre l'univers service pratique et la formation universitaire. Mais la personne qui a apporté le plus, c'est Bertha Hammer, qui était deuxième directrice du McGill School of University. Elle venait de l'université de Yale. Elle a écrit dans les années 20 deux livres très influents. Methods of Principle of Teaching et un manuel sur les pratiques et les pratiques des soins infirmiers. Deux ouvrages qui sont devenus absolument des ouvrages classiques. Elle écrit donc ces deux livres très influents et elle est devenue en 28 directrice de nursing. Si vous avez lu ces livres comme moi, vous trouve là tous les points essentiels donc à notre pratique, essentiellement donc l'importance de voir recours aux forces. Nous avons ensuite le docteur Moira Allen, professeur de nursing de McGill, qui estimait qu'il y avait un rôle complémentaire des soins infirmiers à apporter au système de soins de santé. Elle était la première à dire ce qui faisait la distinction entre le nursing de McGill du modèle médical. Docteur Allen, voilà ce qu'elle a fait. Elle a présenté quelles étaient les idées que McGill avait pour ce qui était des soins de nursing. Pour elle, les soins ou l'approche de McGill est reposée sur les situations qui avaient été définies. Elle a parlé en fait d'un nursing complémentaire ou répondant aux situations particulières. Ça donnait donc au personnel infirmier un rôle complémentaire à celui de la médecine. Elle pensait que dans la planification des soins infirmiers, il fallait mettre l'accent sur les points forts. Et je crois que c'est la première fois que l'on utilisait le mot « force » dans un modèle de nursing. Elle a articulé 7 dimensions particulières de l'intervention. Ça a servi de base au programme d'enseignement qui a été élaboré. Ces idées sont devenues ensuite une partie du programme d'enseignement, du curriculum. Mais bon, au départ, on avait très peu de matière pour déterminer notre programme. Alors, on a commencé. Chaque infirmière a dû développer sa propre compréhension de ce que cela voulait dire que travailler sur les forces. Les directeurs et directrices de nursing, des hôpitaux d'enseignement McGill, et Evelyn Malloy en particulier, a encouragé ses cliniciens à innover et a expérimenté cette différence en 1985. Sur l'initiative de Mme Maloney, nous avons organisé une conférence avec des éducateurs, des cliniciens. Alors, j'avais été contactée auparavant et on avait décidé effectivement de tenir cette première conférence. On a changé le nom. On avait parlé auparavant de Situation Responsive Nursing et maintenant, on changeait le nom pour prendre en considération les contributions de tous ceux qui avaient réfléchi à la profession. Vous voulez avoir une idée qui traduirait bien le fait que c'était toute une communauté, la communauté donc de nursing de McGill qui avait contribué à l'élaboration et l'apparition de ces nouvelles idées. Donc on parlait vraiment du modèle McGill, du modèle de nursing McGill. Et nous sommes passés ensuite à une étape suivante qui avait une base biologique. Moi, j'enseignais un cours qui s'appelait « Development over the Lifespan » avec mon époux Bruce, généticien. Moi, j'avais une formation en soins infirmiers, mais j'avais également un doctorat donc en psychologie. Alors, on a élaboré ce cadre de développement pour mieux comprendre ce que ça veut dire que travailler avec quelqu'un, son environnement, sa santé et dans un cadre de soins infirmiers. Bon, je me suis tournée vers les écrits de Florence Nightingale. Ce qu'il fallait, c'était retrouver le lien avec Nightingale, sa vision du rôle des infirmiers et infirmières. Et voilà, elle nous a dit que le rôle, c'était de mener le patient à une condition qui lui permettra de laisser la nature faire son travail. Il fallait d'abord commencer par écrire quelles étaient les lois de la nature. Nous sommes inspirés donc des sciences du développement, de l'environnement, mais il fallait comprendre les lois de la nature, ces lois de la nature qu'il fallait bien comprendre si l'on voulait aider le patient à se guérir. Donc, il fallait vraiment placer le patient dans un état qui permettra à la nature de faire son travail. Donc, ça permet de reconnaître qu'il existe des capacités innées de guérison. Donc, Nightingale a été la première infirmière à préconiser les soins infirmiers basés sur les forces. Donc, on peut dire que ça a pris pratiquement 100 ans pour élaborer cette approche qui a évolué en passant par différents modèles. C'est plus une approche qu'un modèle, qui répond à certaines valeurs, qui donne un cadre global au personnel infirmier, qui permet donc de décrire la pratique dans un nouveau langage qui correspond davantage donc à ce que nous voulons. Ces choses-là sont importantes. Autre question. Pourquoi est-ce que l'on a besoin de ces soins infirmiers basés sur les forces et pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette approche donc apparaît plus forte? Je pense que le moment est venu de changer les approches. Il y a de plus en plus de personnes qui reconnaissent les forces qui existent et les faiblesses dans notre approche actuelle. Il faut aller récupérer les soins infirmiers. Et ça, c'est parce que il faut également transformer les soins de santé. Et je pense que si nous nous transformons, nous pouvons contribuer à transformer complètement les interventions dans le domaine de la santé. J'avais rendu visite à mes petits-enfants. J'étais écouté une entrevue avec Mario Cuomo, gouverneur de New York, et parler de la politique de la ville de New York. Il a dit, plus on s'éloigne de son essence, plus on se trouve en difficulté. Plus on s'éloigne de son essence, plus on est en difficulté. Voilà ce que disait Mario Cuomo. J'ai pris un crayon et j'ai noté donc ce qu'il venait de dire, parce que je me suis dit, effectivement, c'est quelque chose qui vient me chercher, parce que ça traduit exactement ce que je crois être le problème de nursing. Beaucoup se plaignent du fait que notre système de soins de santé n'est pas un système sain. Ce n'est pas un système qui ne comporte pas la désignation adéquate. C'est pas un système de soins de santé que nous avons, c'est un système de soins de maladie. On dépense beaucoup plus pour essayer de soigner que pour essayer de faire la promotion de la santé. Donc, et notre système est fragmenté, plus ou moins, ça dépend de là où on est, ça peut être très dépersonnalisé. Les gens sont souvent traités comme des objets. Et l'élément moteur magique, c'est très souvent le profit, les considérations financières. Et on accorde moins d'importance à la personne et à la famille. Alors que les soins devraient être axés, centrés sur la famille. Et autre indicateur pour moi du fait qu'il y a vraiment un problème, c'est que les infirmiers et infirmières ont des problèmes d'estime de soi et sont perdus un petit peu dans leur rôle. Il y a à peu près une semaine ou il y a deux semaines, euh, J'étais donné une conférence devant une grosse association et il y a une infirmière qui s'est levée. Elle m'a dit, je ne sais plus quel est mon rôle. Et je lui ai dit, fait combien de temps que tu exerces? 8 ans. Elle a dit, au bout de 8 ans, vous ne savez pas du tout quel est votre travail. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé en fait qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres personnes qui pratiquent le nursing comme un ensemble d'activités, de tâches, sans prendre en considération en fait vraiment l'objectif qui devrait être le sien. Or, dans la pratique, infirmière devait être un ensemble d'activités sociales morales avec une base technique. Car en bout de ligne, le nursing, les soins infirmiers, c'est vraiment une relation. C'est une profession basée sur les relations. Et c'est en fait ce qui peut faire toute la différence. Et nous avons tellement d'éléments de preuve, nous venant de neurobiologie, concernant la force des relations. Donc c'est ça qu'il faut utiliser comme point d'ancrage, avec bien sûr une base technique en plus.
Un autre indicateur qu'il y a des problèmes, c'est le fait que les infirmières et infirmiers n'ont pas de voix. Souvent, on leur impose un bâillon et leur influence n'est pas à la hauteur de leur quantité, si on veut, au sein de la profession. Nous savons que c'est le groupe le plus important en soins médicaux. Évidemment, il y en a plus de 6 pour 1 par rapport aux médecins, n'est-ce pas, de ces infirmiers et infirmières. Et sondage après sondage nous indique qu'elles figurent parmi les professionnels les plus dignes de confiance. Nous ne sommes pas à la table où les décisions sont prises et nous n'exerçons pas suffisamment d'influence sur les soins de santé prodigués comme nous devrions le faire. Troisième indicateur, oui, je pense que c'est le troisième, qui nous prouve qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le milieu, c'est que les infirmières se concentrent davantage sur la médecine que l'aspect soins. Si vous penchez sur la médecine et les soins infirmiers comme étant deux cercles qui se chevauchent, à les fonctions dépendantes des infirmières, où les infirmières ont détiennent les connaissances nécessaires pour pratiquer, et ensuite c'est les zones que seuls les médecins peuvent exercer. Vous voyez ce cercle, cette zone grise où il y a chevauchement, donc où on plonge dans la médecine comme telle. Mais les soins ne se font pas de la même façon que les activités qui se font du côté des soins infirmiers. J'ai écrit un article qui parle de la pénurie des infirmiers et infirmières et la pénurie de ces soins, donc. Bon, ceci m'a été montré au mois dernier en Chine. Je faisais une présentation sur le leadership basé sur les forces qui étaient nécessaires pour en arriver à des soins infirmiers fondés sur les forces. Alors, après que j'ai exposé toutes mes formidables idées, la personne qui m'a suivi était du Stanford Medical Center. Et le titre de sa présentation était, oui, effectivement, ce que vous voyez là, la vessie qui travaille trop fort. Alors, ce dont elle a parlé, c'est ce qui suit. Alors, elle regardait l'histoire médicale d'une personne, comment elle traitait cette vessie hyperactive. Et voilà, elle trouvait que cela était l'équivalent de ce que représentaient les soins infirmiers. Évidemment, ça n'a pas très bien passé chez moi. Il y a une autre solution. Et si on déplace ces cercles concentriques et on accorde davantage de temps aux infirmières à mettre en pratique leurs connaissances. Voici cette vision. Moi, je vois ces infirmiers et infirmières comme étant des personnes qui se concentrent sur les soins. Le bleu est la partie de chevauchement. Il y aura toujours ce chevauchement. Nous aurons toujours un rôle à jouer au sein de la médecine et être associés, liés à la médecine parce que cela fait partie de notre mandat. Et avec cette image, si on veut, de la présentation de ces deux rôles. Les soins infirmiers ont un rôle distinct à jouer pour ce qui est de l'érosion de la santé et de la guérison. Parce que lorsque les médecins ont imposé leur diagnostic et ont imposé un traitement, qui rabiboche, entre guillemets, les patients, c'est le rôle des infirmiers et infirmières. Alors, au lieu de parler de cette vessie hyperactive, eh bien, les soins infirmiers fondés sur les forces parleraient à cette personne qui a cette vessie hyperactive. Alors, vous vous penchez sur la personne qui vit avec les effets de cette vessie incontrôlable, et au lieu de ne que se pencher sur l'histoire, l'historique médicale de cette personne, mais connaître la patiente et avoir des conversations cliniques avec cette personne, écouter, observer, poser des questions sur les préoccupations de cet individu qui souffre de cette vessie hyperactive, comment elle tente d'y faire face, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'elle a découvert, ce qui empire sa situation, ce qui l'améliore, et puis établir des mécanismes innés de guérison, en parler, les établir clairement. Donc, de concert avec cette personne, établir un genre de plan afin de créer des conditions qui permettrait à la patiente, la personne, d'avoir davantage de contrôle sur sa situation, ce qui la responsabilise à trouver des solutions de sa réalité au lieu que parler de la réalité d'une infirmière. Autre indicateur qui nous prouve bien qu'il y a un problème associé à ce système, c'est qu'à l'heure actuelle, nous nous trouvons dans un système qui est dominé par une pensée qui se concentre sur le déficit ou les problèmes. Tout est perçu à travers une lentille négative. On voit la chaîne et on ne voit pas la force de la chaîne, mais plutôt le maillon faible, cet endroit qui est défaillant, ou se penche davantage sur les problèmes qui doivent être réparés, entre guillemets. Alors, quel est le problème associé à ce modèle déficitaire, si on veut? Cela fonctionne plutôt bien. Dépendant de ce qu'on cherche à régler. Quand un patient vient voir un médecin et dit, bon, j'aimerais savoir pourquoi j'ai ceci, j'ai cela, je me plains de cela, alors vous vous penchez sur ce qui ne fonctionne pas, c'est vrai. Mais le problème avec ce message de déficit, c'est que lorsque les choses ne fonctionnent pas comme il faut, on a tendance à pointer du doigt, critiquer, étiqueter même tout ce qui est normal comme étant pathologique. Il y a un terme sur lequel je retombe dans les documents qui saisit bien ce qui est déclenché auprès du patient, déclenche donc la crainte, l'incertitude, le déni et également mène à une détresse, un désespoir. La personne s'en trouve démoralisée et a l'impression de se retrouver devant un genre de cul-de-sac où tout a été tenté mais rien ne fonctionne. Que faire alors dans une telle situation? Dernier indicateur dont je vais vous parler dans ce contexte, c'est que nous fonctionnons en silo. Notre système d'éducation et tout ce qui est pratique également. Les leaders qui nous inspirent ne savent pas ce qu'ils font non plus, donc on se retrouve souvent avec des étudiants qui ont été éduqués dans un certain cadre, avec une série d'idées préconçues, et arrivent dans un environnement clinique où ces idées ne sont pas utiles. Donc on a un système qui fonctionne par silo et qui n'aide en rien quant à leur mission. Parlons maintenant d'espoir. Parlons de la création d'un nouvel avenir. Nous avons des choix, n'est-ce pas, devant nous? Nous pouvons rester dans la même voie et tenter de faire un peu plus de la même chose, suivre nos anciennes habitudes, ou changer de voie et tenter de créer un nouvel avenir. Et moi, je vous propose qu'il n'est pas nécessaire de jeter le bébé avec l'eau du bain non plus, mais il faut certainement commencer à penser à un nouvel avenir, un avenir qui soit différent. Et une partie de cet avenir-là, selon moi, inclurait les soins infirmiers fondés sur les forces. Ces soins infirmiers axés sur les forces, comme vous le savez, c'est le type de soins selon lequel les infirmières travaillent en s'appuyant sur les forces plutôt que sur les faiblesses. Voilà. Ça fait partie des idées de la philosophie, mais c'est pas la seule idée. Ces soins infirmiers fondés sur les forces représentent un genre de trousse, un forfait, si l'on veut. C'est une philosophie, des croyances, des valeurs. Le langage parlé est très accessible et c'est une façon d'être et un comportement à adopter qui dicte le rôle que vous allez jouer. Ça s'applique à votre rôle de parent. Un jour, je vais écrire un livre sur la façon d'être parent selon ses forces. J'en ai parlé à mon fils et j'ai bien envie d'écrire ce livre. Donc, c'est un tout qui comprend tous ces éléments. C'est un terme parapluie, si on veut. Et je vais passer à travers certaines de ces idées avec vous dans quelques instants. Cette idée de tout ce qui est basé sur les forces ne s'applique pas que dans les soins infirmiers. et c'est pas c'est peut-être le premier et des livres écrits pour ce qui est de la santé et la guérison, mais cette idée, cette rectification, cette correction du modèle de déficit, c'est déjà vu dans des modèles de psychologie, de counseling, même dans le droit. Pourquoi est-ce que tout ce qui est basé sur les forces est si attrayant? Parce que c'est basé sur une série de valeurs différentes. Au lieu de s'inspirer de crainte, de peur, d'incertitude et de déni, on part d'autres principes. La responsabilisation, les gens se prennent en main, prennent en charge leur vie, leur avenir, trouvent des solutions multiples à des problèmes qui correspondent à leur situation et engendrent de l'espoir. On peut reconnaître des personnes qui adoptent ce type de valeurs fondées sur les forces. Ces personnes sont faciles à reconnaître dans le monde de l'éducation, des infirmières, etc. Ce sont des gens déments. Pourquoi? Eh bien, parce que ces personnes exudent des énergies positives, ont cette curiosité, veulent savoir, veulent apprendre. Ils font preuve de compassion, sont très engagés vis-à-vis de ce qu'ils font, ont la passion, le courage, sont compétents, sont modestes et humbles parce qu'ils sont ouverts à de nouvelles façons de faire les choses, connaissent les valeurs qui les inspirent, sont très au courant, très au parfum de tout cela, sont intègres. Et non ne fait pas partie de leur vocabulaire. Vous ne les entendez jamais dire non. Ils vont dire, laissez-moi voir, laissez-moi comprendre, laissez-moi vous aider à créer des possibilités. Ce sont les personnes avec lesquelles on aime se tenir. Et voilà pourquoi ce sont des aimants. Alors, cette définition dont je vais vous parler de soins infirmiers fondés sur les forces, c'est la définition d'aujourd'hui qui pourrait évoluer demain. Mais fondamentalement, c'est ce que je pense être ces soins infirmiers fondés sur les forces. Il s'agit d'une approche qui implique la création de conditions qui donnent lieu au meilleur, qui permettent à la personne d'exposer le meilleur d'elle-même pour lui permettre de mieux fonctionner et de fonctionner au meilleur de son être. Donc, dans le domaine de la santé, c'est pour faciliter la guérison et faire la promotion de la santé de façon générale. Si vous vous penchez sur cette question de soins infirmiers fondés sur les forces, et mon livre en parle, cela s'applique à d'autres domaines aussi, la pratique, l'éducation, le leadership et la recherche, par exemple. Bon, la recherche ne figure pas parce que le cliché ne me permettait pas la place de le faire, mais bon. Alors, ce qui change, c'est le rôle. S'il s'agit de la pratique, le rôle, c'est l'infirmière qui pratique. Sa préoccupation, c'est le patient, la cliente. Et ce qu'elle tente de faire, c'est de créer un environnement qui promeuve la santé et qui pousse à la guérison. S'il s'agit du leader, eh bien, on parle de directeur, gestionnaire, infirmière en chef, etc. Et le point focal de ces personnes-là sont donc les infirmières employées au sein des agences. Et ce qu'elles ou ils tentent de faire, c'est de créer des environnements de milieu de travail sains et des environnements d'apprentissage sains qui optimisent le fonctionnement et aident à reconnaître les points forts inhérents à chaque personne. Laissez-moi passer à travers quelques idées principales et des gestes qui sont des soins qui sont fondés sur les forces, des moves en anglais, des gestes. Alors, il y a 10 idées que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, c'est que ces soins infirmiers fondés sur les forces sont ou représentent une approche basée sur certaines valeurs qui nécessitent des gestes. Si vous comprenez les valeurs, ces valeurs, n'est-ce pas? Vous vous penchez sur celles-ci, vous les mettez en pratique et vous vous en servez de façon délibérée, alors vous vous retrouvez avec tout ce qui est fondé sur les forces et donc des soins infirmiers axés ou concentrés sur ces forces. Au centre sont la santé et la guérison. La santé, quelque chose vers lequel on tend, qui crée quelque chose de global, un ensemble, une intégralité, quelque chose d'optimal. Et la guérison, c'est restaurer cette globalité, cette intégrité. À l'entour de ces valeurs, c'est une première valeur force, la question du caractère unique tout le monde est un individu unique, chaque unité est unique, chaque étudiant est unique, et il nous revient de déterminer et de découvrir ce caractère unique de tout un chacun. Et il s'agit d'holisme, de voir le tout et de voir comment des parties d'un tout sont liées les uns aux autres, les uns aux autres et d'un individu à l'autre. Le tout change et les parties changent. Alors, à un moment donné, l'unité peut être le tout au sein d'un hôpital, mais l'unité ne fait que partie d'un programme au sein d'un hôpital et d'une institution. Et l'institution devient une partie d'un système de santé plus large. Donc, il faut toujours comprendre l'interconnectivité de toutes ces parties du tout. Et chez l'être humain, on sait que les gens fonctionnent en tant que individus entiers, sans séparation. Tout a un impact sur tout le reste. Autre aspect, c'est que nous reconnaissons que tout le monde a sa propre réalité subjective, leur réalité, et c'est leur réalité, leur signification, leur sens qui dirige leur comportement. Troisième idée, quatrième valeur, que les personnes au sein de l'environnement sont des personnes intégrales. L'environnement façonne l'environnement, l'environnement façonne la personne, etc. C'est très difficile de les dissocier. Voilà pourquoi la création de certains environnements sont très importants pour la santé et la guérison. Cinquième valeur, la croyance en l'autodétermination. Les gens ont le droit de faire des choix et on peut les aider et cela fait partie de la façon dont on peut les aider à faire leur vie. Il y a toujours une composante entre temps et préparation. Et l'idée de comprendre que les choses changent, toujours ont un potentiel de changement à cause de leur expérience. Et il faut reconnaître le moment choisi où quelque chose arrive et si la personne est préparée à agir et passer un changement. Dernière valeur, partenariat collaboratif. Ceci a à voir avec la nature, des liens que nous formons avec nos patients, les employés, et quelque chose qui est respectueux, un partenariat que tout le monde reconnaît et que l'autre doit reconnaître aussi. Il y a un chapitre de 100 pages là-dessus, et chacun de ces blocs aurait pu être un chapitre en tant que tel. Mais voilà ce qui constitue les soins infirmiers fondés sur les forces. C'est pas la liste, mais c'est bien de tout ceci dont il est question. Deuxième idée, c'est qu'il nous faut briser les silos pour maximiser les impacts. Donc, reconnaître les systèmes sont liés les uns aux autres, et pour que la transformation ait lieu, il nous faut une synergie, que la synergie soit créée parmi toutes nos entreprises en nursing, pratique, leadership ou enseignement. Lorsque les étudiants arrivent dans un nouvel environnement, il y a une pratique qui souscrit à la même gamme de valeurs pour que l'on comprenne comment cela fonctionne en pratique. Donc, que le leadership agisse de la même façon, uniforme, pour que les employés savent comment le tout fonctionne. Lorsqu'il y a cette cohérence en termes des valeurs et cette uniformité, toutes les entreprises adoptent les mêmes valeurs, même si l'expression de celle-ci est très différente, au moins, elles se renforcent les unes les autres et elles solidifient, renforcent le tout, et cela permet une certaine traction. Parce que nous savons que les gens apprennent et développent leur cadre de travail suite à ce qu'ils ont observé, ce qu'ils voient, peu importe leur interaction. Ils voient qui sont leurs modèles. Ils veulent être comme cette personne-ci ou pas du tout. Et lorsqu'ils voient des gens qui ajustent le geste à la parole, que les bottines suivent les babines, autrement dit, eh bien, ce sont des personnes authentiques, vraies, sincères. Et c'est lorsque vous voyez ce genre de choses que les gens comprennent mieux, croient et adhèrent à cette philosophie. Également, il faut qu'ils la vivent, qu'ils expérimentent tout cela. Eh bien, la probabilité qu'ils traitent les patients avec respect est plus grande, mais s'ils ne sont pas traités eux-mêmes de la bonne façon, ils ne pourront pas faire preuve de compassion à leur tour vis-à-vis des clients patients non plus. Alors, voici, j'ai quelques questions mantra, si on veut. Les gens se promènent avec ces questions en continu. Lorsque vous faites face à une situation, comment créer un environnement qui fait la promotion de la santé, que ce soit dans un contexte de classe, vis-à-vis les patients, les employés? Comment travailler avec ou comment aider à élaborer ou développer les forces des étudiants pour les aider à atteindre leurs objectifs. Quelles sont ces valeurs basées sur les forces qui sont en opération et qui guident mes actions, mes gestes? Et finalement, que fais-je? Comment ceci va contribuer à la guérison? Une autre idée est la suivante. Nous devons faire appel aux bons outils pour faire le travail nécessaire. Comme le disait Patricia Brenner, nous sommes tous des genres de détectives. Nous sommes tous impliqués dans un travail d'enquête, si on veut. On nous présente tous des problèmes, des préoccupations, et il nous faut déterminer comment les morceaux du casse-tête se joignent. La méthode dominante d'enquête, c'est le modèle typique avec les déductions, les tests des hypothèses et de mettre de côté les faux diagnostics ou les diagnostics concurrents, si on veut. Et le mandat de la médecine et le contrat social de la médecine, c'est le diagnostic et le traitement. Le modèle médical fonctionne très bien dans ces cas-là parce qu'il a été élaboré à cette fin. Maintenant, le mandat des infirmiers, c'est la santé et la guérison, et on fait appel au même modèle. Cela pose un genre de problème. Finalement, on se sert du mauvais outil pour comprendre donc les problèmes qui nous sont soumis. Mauvais outil pour le faire. Alors moi, je vous dirais que ce dont nous avons besoin, c'est un nouveau modèle, et ce modèle, ce sont les soins infirmiers fondés sur les forces qui vont nous aider avec cette enquête-là qui nous incombe. Voici une autre idée. Je suis allée en Australie cette année, et puis dans la revue que je lisais, j'ai remarqué cette citation. C'est pas ce sur quoi vous pensez, c'est pas ce que vous regardez qui est important, c'est ce que vous voyez. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça bien intéressant. J'aimerais vous raconter l'histoire de Gillian Taylor, et j'en parle dans mon premier chapitre du livre, et j'aimerais partager avec vous pourquoi ce que elle voit est bien différent de ce que d'autres voient. Alors, cette infirmière, Julian Taylor, nous raconte l'histoire de Sarah qui souffrait d'une forme arthritique juvénile très débilitante et qui avait été mal diagnostiquée a priori et qui faisait en sorte qu'elle n'était plus en mesure de marcher. Et donc, elle était la fille d'une mère célibataire de 20 ans. Alors, à l'époque, Sarah avait 2 ans et demi, et elle disait, si je devais dessiner un génogramme de cette famille, et j'écrivais quelques faits associés à cette famille sur papier, quiconque dirait, mais quel désastre, quelle misère, l'arthrite, la douleur, l'incapacité qui s'ensuit. Et moi, je dis, mais quelle résilience et quelle audace. Parce que la première chose qui me frappe et qui m'a frappé au sujet de Sarah, c'était sa volonté et sa capacité de faire des choses seule. Elle se traînait sur les fesses toute seule, de façon indépendante. Et si quiconque voulait venir l'aider, elle disait, je suis capable, touche-moi pas, je vais y arriver, je vais le faire tout seul. Je fais ça tout seul. Et quiconque a déjà eu un enfant de cet âge-là, c'est de quoi il s'agit. Et la mère disait, oui, t'es capable, et oui, effectivement, tu y arrives. Et oui, la situation comprenait beaucoup de douleur, et c'est vrai que ça fendait le cœur, mais Gillian voyait ça d'une toute autre perspective. Alors, exerçons une analyse de l'approche de Gillian et comment cela ressemble davantage à des soins fondés sur les forces. Quiconque qui connaît une des capacités de la santé, c'est l'autonomie. Nous sommes tous réglés, si on veut, circuiter pour adhérer à cette autonomie. Gillian observe cette capacité innée suite au travail qu'elle a fait avec Sarah. Elle voit également sa mère. Est-ce que sa mère crée des environnements qui font la promotion de la santé? Est-ce qu'elle permet à Sarah d'exercer son autonomie de façon appropriée? Elle établit également les conditions pour l'établissement de la confiance avec sa mère. Elle ne la critique pas, ne fait aucun commentaire et ne la juge pas et reconnaît les forces de cette mère, de cette fille, de cette famille. Et je ne connais pas la suite de l'histoire, mais si son rôle est d'appuyer des mécanismes de guérison, elle le ferait. Pour tout ce qui était douleur et la réaction inflammatoire serait sous contrôle, ça oui. Ça fait partie de ses capacités, c'est ce qu'elle peut faire pour aider, soutenir et renforcer ces mécanismes qui mènent à la guérison. Et voilà pourquoi Gillian a vraiment adopté et fait preuve de ses soins infirmiers foncés sur les forces. Par ailleurs, alors, face à l'adversité, la tragédie ou la maladie, l'esprit humain est révélé. Je vais vous raconter une histoire Donc, à propos de Rhonda Kohanek et sa, Rabbi Ron et sa femme Karen. Alors, il s'agit de mon rabbin. Et il y a 2 ans, il a eu donc son AVC et ce qu'il a laissé quadriplégique. Tout le monde qui le connaît continue à trouver qu'il est une source d'inspiration et son incapacité, en fait, a révélé un homme incroyable. Et donc, libérer son esprit et sa personne dans toute sa lumière. Et considérer un peu comment lui-même, le rabbin, perçoit sa vie. Il s'agit d'un poème qu'il a raconté et qu'il a raconté en clignant ses yeux. Il a été publié dans le Time Magazine et il écrit « Il faut croire que vous êtes paralysé pour jouer le rôle d'un quadriplégique. Pas moi. Dans mon esprit, dans mes rêves, tous les soirs, moi, l'homme Chagall, flotte au-dessus de la ville en tourbillonnant et en virevoltant avec mes orteils qui baisent le plancher. Je ne connais rien de la déclaration d'un homme sans motion. Toute émotion, le sang, le cœur pompe, le sang circule dans les veines, les poumons travaillent. La vie n'est pas stagnante, la vie est triomphante vers le haut et vers le bas. Quelle différence! Si vous voyez cet homme à travers la lentille d'une déficit, les déficits sont accablantes, mais les forces y sont aussi. Ce sont les forces avec lesquelles on va travailler pour que la personne demeure à son statut d'être humain. Prochaine idée. C'est que les forces et les déficits coexistent. On parle toujours du verre, le verre qui est à moitié vide ou à moitié plein. Quelle est la vérité? La vérité est que les deux sont vrais. Le verre est à moitié plein et à moitié vide. Je ne le sais que si je regarde le verre tout entier, parce que c'est le montant relatif de la capacité possible qui nous dit exactement où nous en sommes. Alors, il ne s'agit pas d'ignorer les déficits, mais de faire face aux deux réalités et de faire appel aux forces pour surmonter certains des déficits ou pour contenir les limiter ou afin de permettre au meilleur de la personne de se manifester. Une autre idée, c'est que les capacités innées de la santé et les mécanismes de la guérison existent. On est là pour survivre. On a cette capacité à la santé et nous sommes nés avec la capacité de guérison innée. Sinon, nous serions personne ici. Donc, nous avons besoin de ces capacités que nous pouvons appeler des forces. On en a besoin pour la croissance, le développement, la réparation et la restauration, entre guillemets, pour restaurer la personne à son état de plénitude. Et ceci est vrai pour les cellules, les citoyens, les communautés, les forces biologiques, ce qui opère du point de vue biologique, quelles sont ses forces, quelles sont tout ce qui a à voir avec son identité, son statut d'être humain et tout le reste également. À chaque fois que je lis quelque chose, je passe ça à travers la lentille des forces. Je lisais un livre de J.R. Mortringer, il n'y a pas longtemps, qui a écrit « The Tender Bar ». Un très, très beau livre. Alors, il raconte son histoire où il conduit dans le désert de l'Arizona avec son cousin Jeff. Et bon, alors, au fil de leur balade, ils ont une conversation. Alors, en se promenant, il se sentait mal. Il dit, j'aime pas les cactus, je les ai. Ah, moi, je les aime. Sais-tu pourquoi ils ont ces bras énormes qui leur poussent dessus? Non. Lorsqu'un cactus commence à pencher d'un côté, eh bien, il y a un bras qui lui pousse de l'autre côté pour se redresser. Et lorsqu'il se penche maintenant de l'autre côté à cause de son bras, eh bien, le cactus se fait pousser un autre bras de l'autre côté pour rétablir l'équilibre et ainsi de suite. Et voilà pourquoi vous les retrouvez avec ses 18 bras. Le cactus tente toujours de se redresser droit. Et il faut admirer quoi que ce soit qui tente si fort de maintenir son équilibre. Alors, je dis que c'est la même chose avec les êtres humains. Nous tentons toujours de nous redresser, de rectifier. Et nous savons tous ce que c'est que l'erreur et nous tentons tous de fonctionner du mieux possible. Et ce sont ces aspects que nous devrions mettre à jour, découvrir, pour mieux comprendre le rôle que nous devons jouer dans la santé d'une personne. L'idée numéro 8, j'en ai que 10, alors on approche de la fin. Nous devons comprendre comment situer les individus dans leur contexte adéquat. J'aimerais que vous rencontriez donc le Dr. Rick Hodes, médecin en Éthiopie, qui a dédié sa vie aux soins qu'il prodigue aux gens en Éthiopie.
Chaque fois qu'il envoie des documents à l'étranger au sujet d'un de ses patients, il envoie toujours la radiographie, mais avec la radiographie, il envoie toujours la photo de l'enfant, l'enfant dans sa collectivité, parce qu'il veut que l'autre personne comprenne que ce qu'il voit, c'est pas simplement une paire de poumons, mais ce sont des poumons qui appartiennent à une personne spéciale, un membre bien spécial d'une famille, et il veut donc que l'autre médecin prenne cela en considération au moment de faire ses recommandations. Idée numéro 9, on parle toujours des environnements qui offrent une bonne correspondance. C'est un de mes concepts favoris. Nous savons tous qu'il y a des environnements où nous nous épanouissons mieux que d'autres, des environnements dans lesquels la plante s'épanouit et d'autres dans lesquels la plante fane. Donc, il faut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la correspondance entre qui je suis et l'environnement et ce que celui-ci a à offrir? Est-ce que l'environnement fait ressortir le meilleur ou le pire de moi-même? Récemment, j'ai eu une conversation avec Betty Bissas, qui est infirmière chef de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital général juif. Et en fait, quand je suis allée en Chine, je l'ai présentée, j'ai parlé d'elle parce que pour moi, elle est la concrétisation du leadership. Je l'ai déjà vue à l'œuvre. Elle offre des services superbes dans son unité. Et elle est vraiment la personnification de l'excellence en leadership. Elle raconte l'histoire d'une jeune infirmière qui est venue la voir un jour et qui a dit qu'elle voulait quitter l'unité des soins palliatifs parce qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir les qualités nécessaires pour travailler dans cette unité. Mais Bessie a vu son potentiel et lui a demandé « Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, pour te soutenir ?» Et maintenant, plusieurs années après, cette jeune infirmière travaille toujours à l'unité des soins palliatifs et Bessie la connaît bien, cette infirmière. Elle est peut-être ici, d'ailleurs, si vous êtes ici, venez me dire bonjour après. Elle sait que cette personne a un talent tout spécial pour la planification, l'enseignement, ce sont les choses qu'elle aime. Donc, Betty lui a accordé des congés payés pour qu'elle puisse préparer un cours de 2 jours sur la gestion des symptômes. Un cours qu'elle offre non seulement dans son unité, mais aussi dans le reste de l'hôpital. Donc, Betty sait comment créer un environnement qui a permis à cette femme de capitaliser sur ses forces. Et tout le monde en profite, tout le monde bénéficie de ses idées. Et la dernière idée, il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais voilà celle que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est l'effet papillon. Parfois, il y a un tout petit geste qui a d'énormes conséquences. Voici une histoire que John Marsala m'a racontée. John Marsala a fait partie d'un groupe d'études à l'hôpital juif et elle a raconté cette merveilleuse histoire. Alors qu'il était clinicien dans une unité, il a commencé sa carrière en cardiologie et il avait préparé un patient pour une angioplastie. Il a mis en place l'intraveineuse et lorsque le patient est revenu, le patient présentait des saignements. John Marsala a géré ce problème et la relation a progressé. Et John a vu qu'il avait un petit peu de temps devant lui et il a remarqué que le patient n'avait pas été rasé. Il a dit au patient, est-ce que vous aimeriez que je vous rase? Et le patient a dit oui et John l'a rasé. Qu'est-ce que la famille a remarqué lorsqu'elle est venue visiter le patient? Le fait qu'il avait été rasé. Bien sûr, John avait fait beaucoup d'autres choses pour ce patient au niveau médical, mais c'était le rasage qui avait frappé les membres de la famille du patient. Le patient se sentait mieux, cela a amélioré un peu son estime de lui-même, et il était content de se présenter ainsi devant ses proches, qui, eux, étaient vraiment heureux de voir qu'on s'était bien occupé du patient. Donc, l'appréciation qu'on reçoit des patients n'est pas nécessairement basée sur les effets médicaux. Mais c'est lorsqu'on voit que l'infirmier et l'infirmière a pris le temps d'apprendre à connaître le patient, d'écouter ses préoccupations. Donc c'est l'élément relationnel qui compte le plus pour les patients. En résumé, quelques idées. Donc, les soins fondés sur les forces est une approche axée sur la valeur qui oriente les gestes. La transformation requiert une synergie entre les infirmières. Il faut utiliser les bons outils pour accomplir le travail. C'est ce que vous voyez qui compte. Et dans l'adversité, l'esprit est révélé. Il y a aussi beaucoup d'autres idées dont j'aimerais vous parler, mais je vais ajouter seulement quelques commentaires. Nous offrons une contribution unique dans le système de santé. Les médecins se concentrent sur le diagnostic et les traitements et sur les outils appropriés pour soigner le patient. Mais nous sommes là pour faire la promotion de la santé et pour faciliter la guérison grâce à cette approche fondée sur les forces. Nous pouvons améliorer l'interdisciplinarité des pratiques. La pratique interdisciplinaire fonctionne mieux lorsque chaque membre de l'équipe, chaque professionnel apporte ses propres compétences. Chaque personne occupe son créneau que personne d'autre ne peut occuper. Et chaque personne apporte une perspective nouvelle et différente. Et on peut jouer, nous, les infirmières, notre rôle, on peut apporter notre langage. Il y a beaucoup de preuves à l'appui de la pratique fondée sur les forces. Il s'agit de quelque chose qui nous permet d'expliquer ce que cela veut dire d'offrir les soins centrés sur le patient, son bien-être, sa famille. Nous savons que lorsque les gens ont l'impression d'être en contrôle, ils auront de meilleurs résultats au niveau de leur santé. On peut vraiment permettre aux patients de devenir plus efficaces et d'avoir confiance. Et lorsque les patients comprennent qu'ils ont quelque chose à offrir dans la collaboration, dans le partenariat, eh bien, effectivement, ça les aide, ils sont plus mobilisés et ils sont davantage prêts à travailler en partenariat avec les infirmiers et les infirmières. Et croyez-le ou non, nous commençons à accumuler des preuves comme quoi il y a aussi un avantage économique aux soins infirmiers fondés sur les forces. Il y a eu deux études intéressantes menées récemment par Gina Brown, Call for Action, qui a mené une méta-analyse de tous les travaux basés sur les interventions infirmières, interventions qui n'étaient pas des interventions qui visaient à remplacer les actes médicaux, mais qui ont réussi à améliorer les résultats tout en permettant au système d'économiser. Il y a aussi une étude très, très bien connue, la New York Parent Partnership, une étude qui s'est étalée sur de nombreuses années. La personne responsable a montré que lorsqu'on développe une forte relation avec le patient, ça offre des bénéfices durables, pas seulement pour le patient, mais pour toute sa famille. C'est donc un ensemble d'études vraiment très, très convaincantes qui ont pu démontrer que les liens établis entre les infirmiers et les patients sont très bénéfiques. Les infirmières ont aussi un sentiment d'identité plus fort, savent mieux qui et elles sont et savent que ce qu'elles font est important, savent qu'elles jouent un rôle unique au sein du système de santé. Ces soins infirmiers fondés sur les forces donnent un cadre au travail. Les infirmières comprennent mieux ce qu'elles font, pourquoi elles le font et disposent d'une langue qui leur permet de communiquer ce qu'elles font. Et il y a une citation bien connue. Si vous connaissez un peu la mode, ça vient de Alexander McQueen, qui est un designer de mode, qui a dit un jour, ce que vous voyez à l'œuvre, au travail, c'est la personne elle-même. Donc, la personne derrière l'infirmière se reflète dans son travail. Sur ces t-shirts, vous voyez, fière d'être une infirmière et fière de faire ce travail. Et je vais répéter quelques citations. Plus vous vous éloignez de votre essence, plus vous aurez des problèmes. Et moi, j'aimerais reformuler un peu cette citation. comme vous voyez ici, c'est une citation qui vient de moi, plus vous êtes authentique à l'égard de votre essence, plus vous serez en mesure de faire une différence. Et les soins infirmiers fondés sur les forces permettent aux infirmières de retourner à leur essence. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne conférence.